Et ces matins débutent avec le journal de Benoît Bouscarel. Mais oui, bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En Chine, quelle responsabilité pour l'État dans sa gestion de l'épidémie du coronavirus? Comment analyser les maladresses dont il s'est rendu coupable au début de sa propagation? Alors que le bilan dépasse ce matin le cap des 900 morts, nous aurons l'analyse dans ce journal de Jean-Louis Roca, spécialiste de la Chine au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po.
Et puis aux États-Unis, Joe Biden en difficulté dans les deux premiers caucus des primaires démocrates. Après avoir échoué dans l'Iowa, l'ancien vice-président de Barack Obama se dit lui-même peu confiant concernant le scrutin à venir dans le New Hampshire.
En Irlande, des résultats très serrés pour les législatives, mais pas toujours et toujours pas définitifs. Sinn Féin, Fianna Fáil et Fine Gael du Premier ministre sortant sont dans un mouchoir de poche. La constitution du prochain gouvernement sera compliquée. Emeline Vin est à Dublin.
Et puis en France, l'État sera-t-il condamné pour faute lourde dans le cadre d'une affaire de féminicide? En 2014, Isabelle Thomas avait été tuée avec ses parents par son ex-conjoint, alors qu'elle avait porté plainte à plusieurs reprises.
Et sa sœur demande aujourd'hui la reconnaissance des fautes de l'État devant le tribunal de grande instance de Paris. Des précisions de Margot Steve dans ce journal. À 7h12, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, Engie, l'avenir des grands acteurs passe-t-il par les énergies renouvelables? On posera la question à une chercheuse en sciences politiques, Marie de Grémont.
À tout à l'heure. 908 morts et 40 000 contaminés d'après un nouveau bilan officiel communiqué ce matin. L'épidémie de coronavirus continue à faire des ravages en Chine et elle pourrait continuer à progresser également, voire accélérer désormais à l'extérieur du pays d'après l'OMS. 350 malades sont désormais recensés hors de Chine continentale. Deux personnes sont mortes aux Philippines et à Hong Kong. Et c'est la transmission de la maladie par des personnes qui n'ont jamais voyagé en Chine qui inquiète désormais Adhanom Ghebreyesus. Pour le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, nous ne voyons peut-être pour l'instant que la partie émergée de l'iceberg. L'État chinois, de son côté, essaye toujours tant bien que mal d'endiguer la colère de sa population. Malgré le contrôle des médias et un système politique étouffé, le mécontentement concernant sa gestion de la crise est toujours sensible, notamment sur les réseaux sociaux. Jean-Louis Roca est professeur de Sciences Po et chercheur spécialiste de la Chine aux séries.
Il est vrai que l'État chinois a montré un petit peu quelques défaillances. Les raisons de ces hésitations sont diverses. La première raison, c'est que l'État chinois a depuis de longues années un besoin absolument crucial de croissance économique. Le contrat social qui existe aujourd'hui entre l'État chinois et la population est le suivant, c'est-à-dire que le Parti communiste reste, disons, le seul pouvoir politique, mais en même temps en échange, il doit garantir une croissance régulière, améliorer constamment la situation de la population chinoise. Déclarer une épidémie avec toutes les conséquences que l'on peut voir aujourd'hui sur les échanges commerciaux, sur la croissance du pays, sur la situation de l'économie, évidemment, c'est un risque. Évidemment, les autorités locales ont eu du mal, d'abord à alerter les autorités centrales sur ce qui se passait au niveau local, et puis de décider finalement, avec l'accord des autorités centrales, qui elles-mêmes ont beaucoup hésité, à annoncer qu'il y avait une épidémie et tout un tas de gens qui avaient attrapé manifestement un virus que l'on ne connaissait pas. Deuxième faiblesse, on pourrait dire, de l'État chinois à l'heure actuelle, c'est la difficulté que les autorités locales, mais aussi les autorités centrales, d'accepter, disons, des analyses, des avis, des critiques, des commentaires d'experts, de gens qui connaissent la situation et qui sont extérieurs, disons, au système politique ou en tout cas à ses marges. Le troisième point, c'est le fait que l'on couvre beaucoup moins dans les campagnes sur le plan sanitaire que les villes. Ça, c'est une faiblesse aussi du gouvernement chinois.
Des propos recueillis par Lina Tagui. En France, plusieurs dizaines de tests ont été réalisés sur les personnes ayant été en contact avec 11 Britanniques hospitalisés après un séjour en Haute-Savoie autour des contaminés montjois. Aucun nouveau cas positif pour l'instant. Hier, une trentaine de nouveaux rapatriés évacués de la province chinoise de Hubei sont arrivés près de Marseille et ont été placés en quarantaine pour 14 jours. Aux États-Unis, les primaires démocrates en vue de la présidentielle du mois de novembre, les résultats définitifs dans l'Iowa viennent enfin d'être publiés une semaine après le scrutin, à l'avantage du jeune candidat Pete Buttigieg. Il est arrivé en tête devant Bernie Sanders, 14 délégués contre 12, suivent Elizabeth Warren, 8 délégués désignés, et Joe Biden, dont la campagne décidément patine. D'ailleurs, de son propre aveu, il ne s'attend pas à un meilleur résultat dans l'État également rural et blanc du New Douglas du New Hampshire, où le vote est prévu demain. L'envoyée spéciale de France Culture, Isabelle Raymond, s'est rendue cette nuit dans un des meetings de l'ancien vice-président d'Obama. Nous sommes là dans un lycée près de la ville de Manchester et l'enthousiasme n'est pas franchement palpable.
C'est certain que les gens ne font pas la queue pour entrer comme dans un meeting de Pete Buttigieg en ce moment. C'est sûr aussi qu'il y a davantage de cheveux blancs. Mais les électeurs sont venus de loin pour écouter Joe Biden. Charles, cuisinier dans le Delaware, a ainsi avalé 800 kilomètres. Et le fait que l'ancien vice-président d'Obama ait pointé à la quatrième place dans l'Iowa ne lui fait pas peur. Regardez les sondages au niveau national, Joe Biden est toujours devant. Casquette vissée sur la tête, Pete, 30 ans, organise des combats de boxe dans la vie. Je pense que le vice-président Joe Biden a l'expérience nécessaire, insiste-t-il. Prenez le maire Pete Buttigieg, il était très bien comme élu local, mais c'est peut-être un saut un peu trop important pour lui de passer de maire de South Bend dans l'Indiana à président des États-Unis. Sarah Jane, elle est venue en famille du Massachusetts avec sa petite fille de 2 ans dans la poussette et son cœur ballant. J'ai trouvé que c'était un homme très bien. Il s'intéresse vraiment aux gens. Est-ce que je vais voter pour lui? Ça dépend du résultat des 4 premiers États, mais ça m'irait bien. Car comme le répètent à l'envi les supporters de Biden, la primaire démocrate, ce n'est pas un sprint, mais un marathon.
Reportage d'Isabelle Raymond. En Irlande, 3 partis font jeu égal à l'issue d'un scrutin législatif très disputé et la formation du prochain gouvernement sur fond de Brexit s'annonce extrêmement compliquée. Le parti nationaliste Sinn Féin aimerait y avoir sa place, ce que refuse le Premier ministre sortant, Leo Varadkar, tandis que le chef du parti rival de centre-droit, Fianna Fáil, semble très hésitant sur cette question. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est bien le Sinn Féin qui semble virer en tête de ces élections et qui semble en mesure de profiter d'un mode de scrutin finalement très complexe. Depuis Dublin, la correspondance d'Emeline Vin.
Plus de la moitié des 40 candidats Sinn Féin ont été élus grâce au seul vote de premier choix. Les électeurs ici classent les candidats par ordre de préférence et qui sont éliminés au fur et à mesure du dépouillement. Ainsi, à Dublin, la chef du parti, Marie-Lou MacDonald, a engrangé du premier coup près du double du quota nécessaire à l'élection. Les autres partis, quant à eux, ont dû compter sur les deuxièmes, voire troisièmes préférences. Plusieurs ministres n'ont pas été reconduits. Le premier d'entre eux, Leo Varadkar, n'a pas été élu avant plusieurs décomptes. Ça n'était jamais arrivé. Idem pour le patron du Fianna Fáil. Micheál Martin a dû attendre toute la soirée de récupérer suffisamment de voix de la part des petits candidats indépendants. Dès dimanche après-midi, ce dernier est revenu sur sa position pas de partenariat avec le Sinn Féin.
Emeline Vin à Dublin pour France Culture. En France, la famille d'une victime de féminicide attaque l'État en justice aujourd'hui. Une affaire qui sera examinée cet après-midi. Cathy Thomas a déposé un recours en justice afin que l'État soit reconnu responsable de la mort de sa sœur et de ses parents. Tous trois ont été tués le 4 août 2014 à Grande-Synthe dans le Nord par l'ex-conjoint de sa sœur Isabelle Thomas. L'homme s'est suicidé en prison quelques mois après les faits, mais aurait surtout dû être empêché de commettre ses crimes après de nombreuses alertes et procédures lancées par la victime. Les explications de Margot Steve.
L'assassin d'Isabelle devait être jugé le 14 août 2014 pour coups et blessures. Mais ce jour-là sera celui de l'enterrement de la jeune femme. Elle avait pourtant appelé à l'aide à plusieurs reprises. 2 plaintes, 2 mains courantes, 1 contrôle judiciaire. Mais tout cela n'aura servi à rien, regrette sa sœur, Cathy Thomas.
Ma sœur, elle n'a eu aucune aide de personne. À ce moment-là, à quoi ça sert de dire aux femmes de porter plainte? À quoi servent les avocats? À quoi servent toutes les mesures? Si c'est juste pour se dire, être fataliste et dire oui, bah dans le tas, il y en a qui meurent. C'est hors de question.
Et c'est pour que le cas de sa sœur ne se reproduise plus que Cathy Thomas veut faire reconnaître la responsabilité de l'État, son avocate Isabelle Steyer.
On veut démontrer que si l'État était vigilant, si l'État protégeait la situation des femmes qui laissent un mari violent, qui l'ont signalé, qui sont rentrées dans un commissariat, qui ont longuement déposé, qui ont été examinées par des médecins, si ces femmes qui ont fait tout ça étaient entendues et protégées, il y aurait beaucoup moins de meurtres en France.
L'avocate et sa cliente espèrent donc que la justice reconnaisse une faute lourde des autorités. Pour l'instant, seuls 2 dossiers ont abouti à une condamnation de l'État dans des affaires de féminicide.
Et le recours de Cathy Thomas sera examiné cet après-midi. La décision du tribunal ne devrait pas être connue avant plusieurs semaines. La Haute Autorité de Santé recommande d'autoriser les médecins de ville à pratiquer désormais la sédation profonde et continue. Pour l'instant, leurs patients en fin de vie doivent se rendre à l'hôpital en soins palliatifs pour recevoir du midazolam. Zolam, sédatif très puissant. Ça pourrait donc changer si la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, décide de faire suite à cette recommandation.
7h10 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel. La Convention citoyenne pour le climat a poursuivi ses travaux ce week-end et il reste désormais 2 sessions de travail aux 150 citoyens tirés au sort pour boucler leurs propositions.
L'objectif est d'arriver à définir les moyens de réduire de 40% nos émissions de CO2 d'ici 2030. Pour l'instant, ces 150 citoyens ont listé une quarantaine de mesures qui restent confidentielles. Les mesures finales seront soumises au vote de la Convention le week-end des 3 et 4 avril. William Ocan, architecte de 33 ans, est l'un des 150 tirés au sort et il nous explique que les choses avancent.
Dans le groupe Solanger, on a des thèmes qui ont perduré au fil des sessions sur la rénovation globale, sur la formation des métiers du bâtiment aux matériaux biosourcés, à la construction bas carbone et aussi sur la limite de l'étalement urbain et de la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc ça, ces éléments-là, maintenant, elles s'affinent. C'est-à-dire que maintenant, on prend des décisions sur ce qui est de l'ordre de l'incitation, de l'autorisation ou de la restriction, tout ça. Donc c'est des choses sur lesquelles, par contre, on ne peut pas communiquer. Donc on nous a quand même aussi dit d'un petit peu de respecter la qualité de nos débats. Donc pour l'instant, moi, je ne peux pas vous donner tout le contenu de ça. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que des décisions fortes sont prises sur ces éléments-là.
Et c'est là qu'on rentre aussi dans le dur du débat. Faut-il contraindre? Faut-il juste inciter?
Exactement. On a vraiment besoin de mesurer les gestes qu'on propose, puisqu'au final, elles vont avoir un impact sur la société française dans son intégralité.
La sonde euro-américaine Solar Orbiter a décollé pour le Soleil cette nuit depuis la Floride. Dans les 10 années qui viennent, ces relevés doivent permettre de mieux comprendre les tempêtes solaires chargées de particules qui provoquent régulièrement des perturbations sur Terre. Gros succès pour le film Parasite de Bong Joon-ho cette nuit à Hollywood. La 92e cérémonie des Oscars lui a décerné le prix du meilleur film étranger et du meilleur film tout court, en plus du prix du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. Notons que c'est la première fois que l'Oscar du meilleur film est attribué à une œuvre non tournée en anglais. Meilleure actrice dans un rôle principal, Renée Zellweger pour Judy. Meilleur acteur dans un rôle principal, Joaquin Phoenix dans Joker. Toujours beaucoup de vent provoqué par la tempête Ciara qui touche tout l'ouest de l'Europe. 32 départements français sont toujours placés en vigilance orange par Météo France dans les Vosges et de manière générale sur le nord du pays. Les rafales sont violentes, souvent accompagnées de pluie ou de neige en altitude. Le vent va d'ailleurs se renforcer par endroits jusqu'à atteindre des pointes à 200 km/h sur la Corse ce soir et la nuit prochaine. Température ce matin de 5 à 12 degrés, on attend de 9 à 14 degrés cet après-midi jusqu'à 20 sur le Pays Basque.